Radio Prague, les informations. Bonjour, la République tchèque souhaite participer à l'avenir au sommet des pays de la zone euro. La ville de Prague a abandonné le projet d'abri gonflable pour l'accueil des SDF. Et puis en patinage artistique, Tomáš Werner est troisième à l'issue du programme court des championnats d'Europe. Comme annoncé en titre, la République tchèque va donc s'efforcer d'obtenir la garantie de pouvoir participer au futur sommet des pays de la zone euro. C'est ce qu'a fait savoir ce vendredi le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg. Lundi se tiendra à Bruxelles un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des 27, sommet consacré à la stabilité financière et à l'assainissement budgétaire. Nous devrions pouvoir être entendus et surtout aussi suivre aussi ce qui se passe, a expliqué le chef de la diplomatie tchèque. Le gouvernement de Petr Nečas ne s'est pas encore prononcé, rappelons-le, sur la position que la République tchèque adoptera concernant le pacte budgétaire européen, un nouveau traité qui doit aider la zone euro à sortir de la crise de la dette. La Commission européenne a décidé d'annuler le versement de près de 47 millions d'euros destinés au ministère tchèque de l'Éducation. L'arrêt du versement des fonds structurels a été ordonné par la Commission européenne à la suite d'un audit mettant en cause la préparation et la gestion des programmes de formation validés par le ministère. La ville de Prague a, elle, abandonné le projet d'installer un abri gonflable pour accueillir les SDF vivant dans la capitale, et ce, essentiellement pour des raisons de sécurité et de coûts de fonctionnement trop élevés. L'information a été communiquée ce vendredi par le maire Bohuslav Svoboda. Pour répondre à la capacité d'accueil insuffisante des SDF, un sponsor avait envisagé de mettre à la disposition de la ville un abri gonflable dans lequel auraient pu être installés jusqu'à 100 valises en cas de grand froid. La municipalité a en revanche décidé de débloquer 25 millions de couronnes, soit environ 1 million d'euros, destinés à la construction d'un nouveau centre d'hébergement. À cette fin, des discussions sont actuellement en cours avec différents monastères de la ville. Environ 4000 SDF vivent actuellement à Prague. Selon l'armée du salut, la capacité d'accueil est d'environ 20%. 22 SDF sont morts de froid dans les rues de Prague en 2010. 50 salles de cinéma en Allemagne et plus de 20 autres salles en Europe diffusent en direct ce vendredi soir depuis Berlin le concert de la célèbre mezzo-soprano Magdalena Kožená accompagnée de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. 9 salles de cinéma en République tchèque proposent également l'événement en direct. L'orchestre est placé sous la baguette de son directeur général, Sir Simon Rattle, époux de Magdalena Kožená. Magdalena Kožená chantera notamment les leaders de Gustav Mahler sur les paroles de Friedrich Rückert et les chants bibliques d'Antonin Dvorak. On passe au sport et au patinage artistique. Tomáš Werner peut espérer décrocher sa 4e médaille au championnat d'Europe qui se tiennent actuellement à Sheffield en Grande-Bretagne. Le Tchèque, sacré champion d'Europe en 2008, s'est classé 3e jeudi du programme court. Il a été devancé par les Russes, Arthur Kaczynski et Evgeny Plushenko. L'autre espoir tchèque de médaille, je vais m'en sortir, Michal Bjezina, occupe lui la 6e place avant le programme libre ce samedi soir. Et puis on termine avec un mot de météo. Bien entendu, c'est un temps froid et essentiellement couvert qui règne sur une majeure partie du territoire ce samedi, jour de la fête des Hôteliers. De belles et franches éclaircies sont toutefois attendues dans la moitié est du pays. À l'autre bout, en Bohême de l'Ouest et du Nord, quelques chutes de neige sont prévues. Les températures restent froides et varient entre moins 3 et 0 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Prague a accueilli ces jeudi et vendredi une conférence sur le système de navigation européen par satellite Galileo. Prague sera désormais le siège de l'agence qui gère ce projet, nous vous en dirons plus dans un instant. Invitation ensuite à l'exposition pragoise du célèbre photographe américain David LaChapelle. Dans notre rubrique économique, il sera question de la coopération au développement de la République tchèque. « D'ici la rentrée 2012, le siège de l'agence qui gère le projet de système de navigation européen par satellite Galileo sera installé à Prague. Le contrat d'accueil de l'agence du système global de navigation par satellite a été signé ce vendredi dans la capitale tchèque par son directeur exécutif Karlo Desdorides et le ministre tchèque des Transports Pavel Dobesch. La signature du contrat s'est faite en marge d'une conférence internationale sur les applications du nouveau GPS européen. La signature du contrat sur l'installation du siège administratif de l'agence du programme Galileo à Prague aura été précédée de 5 ans de négociations. Ainsi, environ 45 employés de l'agence quitteront son siège provisoire à Bruxelles pour s'installer avec leur famille à Prague au cours de l'été prochain. Le siège de Galileo se trouvera dans les anciens locaux de l'agence tchèque de consolidation dans le quartier pragois de Holešovice. Le coût de ce déménagement est évalué à 3 millions d'euros. À l'heure actuelle, l'agence du système global de navigation par satellite n'emploie que 4 tchèques, mais leur nombre devrait encore augmenter. Le reste de l'équipe est international, mais comme l'admet le directeur de l'agence, Karlo Desdorides, tous les employés ne sont pas motivés pour faire le déplacement à Prague. Le chargé gouvernemental du projet Galileo en République tchèque, Karel Dobesch, précise.
Pour les Italiens ou les Allemands, le déménagement à Prague ne présente aucun problème. C'est un peu plus difficile avec les Français et les Belges. Je pense que c'est dû à la différence de nos cultures. Nous avons bien fait, je pense, en invitant tous les employés à Prague, en leur montrant la ville et le bâtiment de l'agence.
Le système européen de navigation par satellite mis au point par l'Europe devrait fournir un positionnement précis et garantir tous les types d'applications civiles, systèmes de navigation pour les automobiles, les téléphones portables, les transports maritimes, routiers, ferroviaires et aériens. Galileo pourrait en outre servir à localiser des personnes recherchées ou malades, notamment des enfants et des personnes âgées. D'autres projets portent sur des hélicoptères sans équipage ou des tondeuses à gazon automatiques. Longuement retardé, Galileo a enfin pris son envol en octobre dernier avec le lancement des 2 premiers satellites. Ces derniers devraient être 18 en 2014, l'année où le GPS européen devrait être mis à la disposition des automobilistes. Le système final sera bouclé en 2019 au plus tard et devrait compter à terme 30 satellites. Son coût total est estimé à 7 milliards d'euros. Censé concurrencer le GPS américain, Galileo a désormais d'autres rivaux, notamment les systèmes de navigation chinois et russes. Mais d'après Karel Dobesch, la concurrence représente plutôt un avantage pour les consommateurs.
Du coup, il y aura dans l'espace plus de satellites qui aideront les automobilistes à s'orienter. Les satellites de GPS et de GLONASS sont compatibles avec ceux de Galileo. Par conséquent, dans les grandes villes, l'accessibilité du signal émis est encore meilleure.
Le directeur de l'agence du système global de navigation par satellite, Karlo Desdorides, explique au micro d'Alexis Rosenzweig quelle est l'importance du centre pragois de Galileo pour la République tchèque.
Je crois que c'est vraiment une opportunité pour Prague d'avoir la proximité de la compétence de l'agence, c'est-à-dire l'opportunité de connaître les développements de programmes, les initiatives, les projets que l'agence viendra de lancer. Donc je crois que ça sera vraiment une opportunité pour l'industrie, l'économie qui tourne à côté de Prague. Oui.
Est-ce que on arrive, malgré les désaccords entre États membres, à faire en sorte que le calendrier soit respecté pour Galileo?
Oui, je crois que le lancement qui a été fait à la fin d'octobre de la base de Kourou, ça a été un très important premier pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les 18 satellites de Galileo seront en orbite entre 2014 et début 2015. Et donc, je crois que ça sera le plan qu'aujourd'hui on a en face de nous.
C'est un bel exemple de ce que peut faire l'Union européenne quand ça marche?
Absolument. J'ai dit souvent que Galileo, c'est l'Europe. Avec tous les problèmes, avec toutes les contradictions, vraiment, je crois que l'Europe a besoin de Galileo.
C'était Carlos Desdorides, directeur de l'Agence du système global de navigation par satellite. Il répondait aux questions d'Alexis Rosenzweig. Exposition événement de la fin 2011 et du début 2012 en République tchèque, Tak pravil da spouk, La Chapelle présente une rétrospective de l'œuvre du célèbre photographe américain David La Chapelle. Organisée par la galerie Rudolfinum, elle se tiendra jusqu'au 26 février prochain. Jean-Sébastien Letton.
Présentée avec le soutien, entre autres, de l'ambassade des États-Unis, cette exposition fait l'objet d'une campagne publicitaire très visible dans les rues de Prague. Très connu outre-Atlantique, David La Chapelle est un photographe qui a débuté dans le monde de la mode et de la publicité, avant de se lancer dans la photographie d'art. Depuis les années 80, il est l'auteur de plusieurs séries thématiques de clichés, qu'il réalise toujours dans le même style. Avec une approche très pop art, ses photographies sont souvent des mises en scène en studio et sont conçues comme un moyen de critiquer la société. Volontairement kitsch, parfois vulgaire et agressif, La Chapelle souhaite surtout montrer les travers et la décadence de la société américaine. Parmi ces clichés célèbres, on peut citer Amanda Addicted to Diamonds, où l'on voit le mannequin transgenre Amanda Leport sniffer à l'aide d'un billet de banque des rails de diamants, ou encore la série Jesus is my homeboy, dont les photos présentent des épisodes de la vie de Jésus au sein d'une métropole américaine moderne. La galerie Rudolfinum offre au public un vaste échantillon de l'œuvre de l'artiste. Des clichés de jeunesse aux séries thématiques en passant par les grands formats. Monsieur Otto Urban, l'un des commissaires de l'exposition, nous explique les raisons qui l'ont poussé à exposer les photographies de La Chapelle.
C'est un auteur qui occupe dans le contexte de la photographie contemporaine une place très particulière. Dans le cadre des expositions de la galerie Rudolfinum, consacrée à la photographie contemporaine depuis plus de 15 ans, la tendance que La Chapelle représente n'avait pas encore été exposée. Aux côtés des expositions de Cindy Sherman, Anne Goldin, Gregory Crutzen et d'autres photographes contemporains, La Chapelle a pour sa part introduit une nouvelle dimension dans la photographie contemporaine.
L'œuvre de La Chapelle contient de nombreuses références à la culture urbaine américaine, notamment au hip-hop, aux stars ou encore au mode de vie dans les grandes villes. Revendiquant directement l'influence d'Andy Warhol, son œuvre entend illustrer la culture pop états-unienne. Quel en est son message ? Réponse avec M. Urban, qui nous apporte quelques éléments de réponse.
C'est une question qui a bien sûr plusieurs dimensions. Nous pouvons évoquer quelques idées politiques, sociales, humanistes qui font partie de son œuvre. Il y a toujours cet effort pour démasquer le monde duquel il vient et dont il s'est émancipé, afin de poser à nouveau des questions qui, au premier abord, ne semblent plus d'actualité, mais qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'art. Des questions telles que « qu'est-ce que le beau ?» Quel est le sens de l'art? Le fait qu'il puisse avoir une dimension sociale politique ou ne pas en avoir. La Chapelle ne pose pas ces questions de manière ésotérique ni hermétique, comme le font certains artistes qui ne s'adressent qu'à une petite communauté d'amis proches. Il a consciemment voulu parler à un large éventail de personnes qui ne fréquentent pas les galeries d'art ou les musées et pour qui les galeries se trouvent dans les magazines ou dans la publicité.
Tu roli galerii a výstavních prostor měly obrázkové časopisy nebo reklama.
Quel qu'en soit leur message, les photographies de David La Chapelle ne laissent pas indifférent. Il s'agit du type même de travail artistique que l'on aime ou que l'on déteste. Mais leur caractère volontairement outrancier est le fruit d'un travail minutieux réalisé en studio. La puissance d'évocation et le mordant en étant un des caractères essentiels.
La coopération au développement s'est imposée durant ces 20 dernières années comme l'une des principales politiques des relations bilatérales de la République tchèque avec les pays du Sud. Le politologue et économiste Andrej Horký vient de publier aux éditions Sloan un ouvrage intitulé « La coopération au développement de la République tchèque, discours, pratiques et contradictions » et dans lequel il revient sur cet aspect mal connu de la politique étrangère tchèque. Andrej Horký est l'invité de notre magazine économique. Il est au micro de Paul Bauer.
Économie, commerce.
Andrej Horký, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations internationales à Prague et vous venez de publier un ouvrage intitulé « La coopération au développement en République tchèque ». Comment vous est venue l'idée de travailler sur ce thème et de publier un ouvrage qui lui est consacré ?
Eh bien, le développement international et la coopération au développement sont des thèmes qui m'ont paru intéressants déjà quand j'étais à l'université. Et en fait, ça a commencé avec une espèce de vide. Parce que souvent, j'ai étudié à l'université d'économie et les pays du Sud, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, on n'en parlait pratiquement pas dans les cours. On parlait plutôt du Japon, des États-Unis et bien sûr de l'Union européenne. Donc c'est un petit peu le vide sur les pays du Sud où la majorité de la population mondiale vit que m'est venue l'idée de s'intéresser plus d'abord aux aspects économiques, plus tard aussi les aspects politiques, sociaux et aussi la coopération développement qui est devenue une politique assez importante de la politique étrangère tchèque.
Le terme de développement est utilisé dans différents contextes pour parler de différentes choses. Est-ce que vous pouvez un peu préciser ce terme ou du moins les emplois de ce terme aujourd'hui ?
Bon, je dirais qu'il y a autant de définitions qu'autant il y a d'habitants sur la Terre, disons 7 milliards. Aujourd'hui, la définition la plus acceptée serait peut-être le contraire de la pauvreté. Ce qu'on imagine comme la pauvreté, le développement, c'est en quelque sorte l'absence de la pauvreté. Mais évidemment, il y a aussi des définitions différentes de la pauvreté. Souvent, les économistes la définissent seulement en termes monétaires. Mais il y a aussi des aspects culturels, des aspects sociaux et d'autres. Je ne regarde pas la définition ou le développement tel quel. Moi, je regarde comment cette idée du développement, qui est venue souvent avec l'Union européenne, avec l'intégration à l'OCDE et avec l'influence de l'intégration après la révolution de Velours, qui a signifié que la Tchéquie est devenue une partie de l'Ouest, en quelque sorte, du Nord. Il y a eu ce besoin d'avoir une coopération de développement aussi pour montrer que la République tchèque est un pays développé. Donc c'est aussi par les pratiques d'avoir une aide au développement qui définit que le pays est développé ou pas. Même s'il y a des pays qui sont plus ou moins riches, où il y a des grandes poches de pauvreté dans les pays du Nord, ou aussi il y a beaucoup de riches dans les pays du Sud, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil par exemple. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des pays pauvres, des pays riches, mais c'est aussi les pratiques de donner l'aide qui définissent en quelque sorte si on se considère comme développé ou pas.
Vous êtes intéressé à l'aide au développement de la République tchèque auprès des pays du Sud. Avant 1990, est-ce qu'il y avait déjà une aide au développement de la Tchécoslovaquie socialiste ?
Effectivement, cette aide était très importante. Il y a même des recherches qui disent que ça correspondait presque à 1% du PIB du pays. Si c'était le cas aujourd'hui, où on est à 0,15%, si on était au niveau de la Tchécoslovaquie, la République tchèque serait un des pays les plus généreux du monde. Donc c'était très important, mais évidemment c'était aussi avec des aspects politiques, probablement une partie de l'aide qui était purement militaire était comptée comme l'aide au développement. Et le fait même que l'aide au développement tchécoslovaque s'est écroulée après 1990 montre qu'il n'y a pas vraiment eu d'intérêt autre que politique à continuer à donner cette aide aux pays de l'Afrique, de l'Amérique latine ou d'Asie.
Donc il y a eu un véritable changement dans les orientations qui ont été prises par l'État tchèque en direction de l'aide au développement par rapport à ce qu'il était avant 1990.
Tout à fait. En 1990, il y a eu un repli de la Tchécoslovaquie et à partir de 1993 de la Tchéquie sur elle-même, avec beaucoup de réformes pénibles, avec le renouvellement de la démocratie. Donc, à ce moment-là, les pays du Sud ont été pratiquement oubliés. Aussi, les contacts commerciaux qui étaient dans le cadre d'échanges plus ou moins socialistes ont été complètement oubliés, se sont écroulés. Donc c'est seulement avec l'entrée à l'OCDE, à l'Organisation pour la coopération
et le développement économique,
en 1995, que l'aide de la coopération au développement a été reprise par le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères.
Et ce redéploiement s'est fait en faveur de quel pays ? Est-ce que l'aide au développement de la République tchèque a suivi les canaux qui étaient les siens avant 89, où il y a eu vraiment une révolution dans les orientations et les pays ciblés par cette aide gouvernementale ?
L'aide au développement dans les années 90 était très dispersée. Il y avait presque 50 pays du Sud où l'aide tchèque allait. Et c'est une situation pratiquement insoutenable parce que avec ces petites quantités d'aide, il était très difficile de faire de bons projets, de faire de vrais changements pour les gens qui vivent dans ces pays et dans ces régions. En même temps, on peut dire que à partir des années 90, il y a eu quand même des différences d'orientation. Par exemple, les ministères, l'État, commençaient à s'intéresser aussi pour des raisons économiques à des pays de l'Europe de l'Est, de l'ex-Union soviétique ou dans les Balkans. Au contraire, quand on regarde les organisations caritatives, on voit qu'elles s'intéressent beaucoup plus à l'Afrique, avec qui les exportateurs ou l'État n'a pas des relations aussi étroites. Donc on voit quand même une différence dans l'opinion publique et dans les intérêts politiques et économiques de la République tchèque.
Après 1990, c'est la libéralisation de la vie politique et de la société civile, disons la création ou la recréation de la société civile, comme on le dit parfois. Donc c'est l'apparition des organisations non gouvernementales. Comment se fait la relation avec l'État concernant l'aide au développement ?
Ça, c'est très intéressant parce que le plus souvent, on considère que les ONG, les organisations non gouvernementales, sont une expression qui vient d'en bas, qui correspond à une société civile, etc. En réalité, quand on regarde au fonctionnement, par exemple, Tchoyek Tisni, qui est la plus grande ONG tchèque dans le développement et aussi dans les droits de l'homme, on voit que la grande majorité de ces financements ne proviennent pas de la population, mais de l'État, de l'Union européenne, etc. Donc, le fait que nous avons des organisations non gouvernementales, mais en réalité, ces politiques, ces orientations ne sont pas très différentes de l'État, puisque c'est l'État qui les finance. Et il y a un autre problème sur lequel je mets beaucoup d'accent dans mon livre, c'est que comme les ONG sont dépendantes de l'État pour leur financement et sont aussi moins critiques dans ce que l'État fait, elle ne critique pas beaucoup que la quantité de la coopération au développement ne correspond pas du tout aux engagements de la République tchèque auprès de l'Union européenne, par exemple. Aussi, en termes de quantité, ils ne sont pas aussi critiques par rapport à d'autres politiques de la République tchèque, par exemple dans le domaine de la migration, dans le domaine de l'agriculture, qui sont très importants, qui ont beaucoup plus d'impact sur les pays du Sud que la coopération au développement et où on pourrait vraiment faire de grands changements pour que la pauvreté dans les pays du Sud soit diminuée.
Vous abordez dans votre livre la question du genre dans le développement, dans l'aide au développement et le fait que les femmes sont des catégories cibles de la société vers qui le développement ou l'aide au développement se tourne de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette thématique ?
Dans le domaine de la coopération, je pense que la situation est une copie de la société tchèque, où les questions de genre ne sont pas très importantes. Quand on regarde le gouvernement, même dans le monde académique, les ONG, c'est surtout les hommes qui occupent des positions importantes. Et dans la coopération, c'est la même chose. Le problème, c'est que quand... par exemple, moi, je présente un exemple d'un projet d'un lycée professionnel agricole dans la province de Bié, à Angola, où la situation dans l'agriculture en général, en Afrique subsaharienne, où ce sont très souvent les femmes qui sont très actives comme productrice de la nourriture pour les familles et pour les enfants. Et voilà, on a un donateur, un pays riche, qui arrive et qui, dans l'éducation formelle, vient pour soutenir surtout les hommes. Et les femmes, elles sont mises en écart pour beaucoup de raisons, pour des raisons de grossesse, pour beaucoup de travail qu'elles ont dans leur famille et dans le ménage. Elles peuvent très difficilement accéder à l'éducation qui est soutenue par la République tchèque. Mais après, le résultat, c'est que l'écart entre les hommes et les femmes en anglais est encore plus accentué qu'il était avant. Donc je pense que cela montre très bien que la coopération au développement est très sensible du point de vue culturel. Et même si un projet qui à premier abord paraît très bon, voilà, on va donner de l'éducation aux jeunes gens en Angola pour qu'ils puissent développer le pays, on voit que l'aide au développement peut avoir aussi des effets très négatifs, dans le sens que culturellement, elle fait une intervention dans le pays et accentue encore les inégalités qui sont déjà très, très, très importantes en Afrique.
Donc vous voulez dire que l'aide au développement de la République tchèque, l'aide au développement en général, ne prend pas vraiment conscience de la réalité sociale dans les pays dans lesquels les aides sont envoyées?
Cela dépend. Il y a des ONG qui connaissent très bien le terrain, comme on dit, où leur soutien s'ajoute à des initiatives locales, des ONG locales. Là, je pense qu'une coopération de développement de ce genre est très, très précieuse. Mais souvent, encore deux tiers de la coopération bilatérale tchèque sont réalisés par des entreprises et où des intérêts économiques sont beaucoup plus importants que l'idée d'aider aux gens qui vivent en Afrique ou en Asie. C'est plutôt considéré comme une aide pour les entreprises tchèques, même s'il n'est pas vraiment affiché. Dans ce cas, je pense que l'aide au développement n'a pas vraiment de sens et il vaut mieux la présenter telle qu'elle est, comme un soutien à l'exportation pour les entreprises tchèques.
C'était l'économiste André Horky dans Économie Commerce. Et c'est la fin, chers amis, du programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková vous remercie de l'avoir suivi.